Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure qui aujourd'hui, en plus d'être radiophonique, est aussi vidéonette. Nous sommes en direct, en live et en public du Forum des associations à Évreux, une belle occasion d'échanger avec les associations de notre territoire. Et puis on y a mis les moyens, 102.4 FM, 95.9 FM, www.principactif.net et le Facebook du Bige d'Évreux pour ceux qui veulent en plus les images. Une belle collaboration avec les copains du service jeunesse et ceux de culture et nature. Le décor est planté et nous allons entrer dans le vif du sujet. Sur ce premier plateau, nous allons parler du milieu associatif, moteur de solidarité. Et pour m'accompagner durant cette émission, eh bien, ce sont des spécialistes de l'associatif et de la solidarité que nous recevons, à savoir Michel Debonner, président des Tisseurs de Liens, avec Nathalie Coin, assistante de direction à la Croix-Rouge française Lanterne hébroïcienne, avec Karel Blanchard, médiatrice accueil famille à l'association au centre social à L2E, et avec Christophe Cousin d'Habitat Humanisme, il est coordinateur de l'association. À la radiopropulsion et à la visiopropulsion de cette émission, eh bien, de la partie animation, vous l'avez vu, c'est la Mimax. Au niveau de la technique vidéo, c'est Adrien et Xavier. Au reportage, c'est l'ami Jean-Jean que nous allons retrouver. L'ami Deuze, eh bien, il fera également du micro. Et à la réalisation de cette émission, c'est l'ami Vinci. Voilà, le mix des cultures en direct, en live et en public du Forum des associations d'Évreux, je vous rappelle, ouvert jusqu'à 21h le vendredi, samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h. Vous avez le temps de venir à la rencontre de toutes ces associations. Je vous le disais, on a un plateau avec les Tisseurs de Liens, avec la Croix-Rouge française, avec le Centre social d'AL2E et avec Habitat et Humanisme. J'ai envie de commencer un petit peu à faire un tour de table pour en savoir un peu plus sur les associations que vous représentez et puis dans quel cadre vous œuvrez. J'ai envie de tendre peut-être le micro pour commencer à Nathalie Coin, assistante de direction à la Croix-Rouge française. Alors Nathalie, qu'est-ce que la Croix-Rouge française et que propose l'antenne hébroïcienne?
Bonjour, la Croix-Rouge française d'Évreux, c'est essentiellement une association à but non lucratif et nous sommes là dans l'humanitaire. Donc pour des aides alimentaires, des aides vestimentaires, nous faisons aussi à côté les formations, les postes de secours. Nous sommes aussi à l'heure actuelle sur les centres de tests, les centres de vaccination. Dernièrement, nous avons aussi été interpellés par le centre opérationnel de la Croix-Rouge française pour aller faire un centre d'accueil à l'aéroport Charles de Gaulle pour les avions qui arrivaient d'Afghanistan. Voilà.
Donc, c'est vraiment... Les rapatriements des ressortissants français. Voilà.
Exactement. Donc voilà, à Évreux, c'est vraiment de l'aide alimentaire, de l'aide vestimentaire, une vestiboutique, les postes de secours, les formations premiers secours. Et après, on a des arbres de Noël, on a des missions un peu plus ponctuelles tout au long de l'année.
Très bien. En tout cas, la solidarité, c'est quelque chose qui vous parle à la Croix-Rouge française, me semble-t-il.
C'est ça, tout à fait.
Une des valeurs portées par l'association au niveau national, mais aussi au niveau local, bien entendu. J'ai envie de me retourner vers Carole Blanchard. Alors, Carole Blanchard, vous êtes médiatrice accueil famille. En quoi ça consiste et quel est le lien avec le public et ces questions de solidarité?
Alors nous, on est une association à L2E qui est amicale laïque d'Évreux-Est. Nous avons en fait, c'est un centre social qui regroupe donc il y a Netreville, quartier Netreville et le Clos au Duc. Et en fait, nous avons un côté détente et loisirs avec une cotisation à l'année et un côté où il y a quatre pôles. Donc on a le pôle jeunesse, pôle famille, on a l'accueil et l'accès aux droits et puis l'animation de vie locale. Voilà.
Donc, Donc finalement, le contact avec la population du Clos-au-Duc et de Maitreville, c'est un petit peu votre quotidien.
Oui, c'est permanent. Voilà, exactement, c'est permanent.
Être à l'écoute pour répondre aux questions de loisirs, j'imagine, mais peut-être sur des questions sociales également.
Oui, effectivement, voilà. Être à l'écoute et puis avoir l'œil aussi, et puis pouvoir répondre aux habitants et à la demande des gens, monter des projets avec eux. C'est important, les envoyer vers nos partenaires et puis repérer les besoins.
Très bien, nous y reviendrons dans un petit instant, notamment parce que je vous ai interpellé plus particulièrement sur les paniers solidaires qui ont été mis en œuvre. On y reviendra dans un instant plus en détail. Juste avant d'y revenir, justement, je vais tendre la parole à Christophe Cousin, coordinateur de l'association Habitat et Humanisme. Rien que dans le titre, en fait, on sent bien qu'il va y avoir une histoire de solidarité quelque part.
Un petit peu, oui, effectivement. Alors, Habitat et Humanisme, c'est un mouvement qui existe en France depuis 35 ans. Il y a des associations pratiquement dans tous les départements. Et pour ce qui est de l'heure, on est présent depuis 20 ans. Et pour résumer, en fait, notre cheval de bataille, c'est le logement pour tous. Voilà. Donc, et en particulier pour les familles les plus défavorisées. Et donc, on les accompagne, en fait, dans la vie aujourd'hui, il y a deux piliers importants, le logement et l'emploi. En fait, quand on a déjà ces deux jambes qui sont à peu près stables, tout à chacun, on essaie de faire au mieux dans la vie de tous les jours. Et là, on travaille sur le pilier du logement. Et donc, de différentes façons, on accompagne les familles, soit dans des logements, donc ce qu'on appelle le diffus, donc elles sont dans des appartements et des logements classiques, soit des bailleurs sociaux, soit des logements que l'on a à nous, enfin voilà. Sinon, on a aussi dans le département deux pensions de famille, donc là on travaille plus sur le collectif, donc c'est des familles ou des personnes qui ont un parcours un peu plus abîmé, on va dire, et là le temps est plus long, et donc voilà, il y a vraiment une notion collective qui est importante.
Et peut-être même une notion collective dans la prise de confiance aussi, parce que j'imagine que ce n'est pas qu'une histoire d'annonce pour un logement. Quand on a un problème de logement, il y a parfois d'autres thématiques sous-jacentes.
Effectivement, donc, nous on apporte en fait entre guillemets la stabilité du logement, et puis on travaille l'accompagnement social qui va autour, mais effectivement, avec pour principe en se disant, si déjà on a un toit, un chez-soi, on peut aller travailler sur les autres choses. Et puis, tout récemment, dans les autres formules d'accompagnement, on a aussi une résidence intergénérationnelle. Voilà, ça évolue effectivement dans la façon d'accompagner. Où là, c'est un peu un mot à la mode, mais donc là, on a 18 logements dans lesquels on mixe des familles classiques, voilà, des personnes âgées et des familles monoparentales, parce que c'est aussi, on parlera tout à l'heure de la solidarité, un profil de famille qu'on retrouve de plus en plus.
Michel Debonnaire, président des Tisseurs de Liens, qui, au-delà d'être une association apparentaire, est aussi un centre de croisement de beaucoup d'associations du secteur social et sanitaire.
C'est un collectif associatif. Ça a été fondé comme ça. On regroupe une centaine d'associations sur Évreux, et ça commence à aller au-delà. Donc on est surtout avec des associations dans le secteur du social, du médico-social, du handicap, et on y inclut de plus en plus l'économie sociale et solidaire. Parce que toutes les associations, à partir du moment où elles font du social, elles font de l'économie sociale et solidaire aussi.
Et puis le fait aussi, parce que quand on dit on fait de la solidarité avec les publics, mais finalement il y a aussi de la solidarité avec les autres structures, parce qu'on peut se rendre compte que parfois des structures peuvent elles-mêmes être isolées. Alors c'est pas comme un individu qui peut être isolé, mais en tout cas certaines structures parfois sont isolées. Le fait de faire partie d'un collectif finalement permet de travailler, j'imagine, des sujets autrement.
C'est comme ça qu'a été créé les Tisseurs de Liens, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'associations sur Évreux, dans le secteur que je vous disais, social, médico-social, ne se connaissaient pas. Il y a des très petites associations, il y a des grosses associations qui s'en sortent un peu moins, mais les petites associations n'ont pas de visibilité. Donc quand on a commencé à se réunir, on a trouvé des complémentarités et on a décidé de créer un collectif justement pour mettre en commun nos savoirs et nos pouvoirs, et ça fonctionne plutôt bien.
Dernièrement, ces questions de solidarité ont été abordées, notamment sur les un an et demi que nous venons de passer. Certaines personnes qui étaient déjà en fragilité se sont trouvées encore plus en fragilité. Certaines qui n'avaient pas de fragilité, on va dire, sociale, se sont retrouvées dans des isolements, hein, sur lesquels aussi il y avait besoin d'un certain contact. L'appauvrissement également de tout un tas de personnes. En tout cas, les deux dernières années, enfin, un an et demi, je fais référence à la période de Covid, hein, bien entendu, ont creusé des fossés. Est-ce que, dans vos champs d'action respectifs, cette notion de solidarité s'est transformée dans la façon de l'aborder ou s'est fait ressentir de manière plus criante par le public accompagné ou par les nouveaux publics ou les nouvelles demandes des publics? Je pose la question au milieu, celui ou celle qui veut s'en emparer dès le début, n'hésitez pas à vous en saisir. Nathalie Coin.
Oui, alors nous, tout à fait. Faut savoir qu'avant la pandémie, on avait entre 50 et 70 familles qui bénéficiaient de l'aide alimentaire hebdomadaire. Au moment de la pandémie, on avait 180 familles. Donc, vous voyez, on a triplé entre... fin février et début mi-mars de la pandémie, on a triplé le nombre de familles. Ça peut être de la personne seule à la famille monoparentale ou même aux familles recomposées. Enfin, voilà, vraiment toutes les familles confondues. Ça pouvait être aussi des personnes qui travaillaient mais qui se sont retrouvées au chômage parce que avec la pandémie, leur CDD s'est vu arrêter. Enfin, voilà. Nous, on a vraiment triplé
le nombre d'accompagnements
au niveau de l'aide alimentaire. Et à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, on est encore à 160 familles hebdomadaires.
C'est assez énorme,
oui,
finalement.
Oui.
Et alors, est-ce qu'avec ces besoins qui s'accroissent, et là sur la question alimentaire en particulier, dont vous nous faites part, Nathalie Coin, est-ce que l'envie d'apporter aussi son aide d'un public qui serait faiseur de solidarité, même si on peut être et bénéficiaire et faiseur, hein, d'ailleurs, de solidarité, hein, l'un n'empêchant pas l'autre, mais est-ce que du coup, ça a généré un élan aussi de solidarité pour filer la patte?
Tout à fait. On a eu énormément de jeunes. De jeunes étudiants au premier confinement qui sont venus nous aider et qui ont arrêté là parce qu'ils reprennent les cours. Voilà. Mais on a eu effectivement énormément de personnes qui sont devenues bénévoles au moment de cette première pandémie.
Carole Blanchard, vous, sur les questions d'accompagnement des publics, et puis là, vous êtes bien placée, notamment sur le quartier de Netreville et du Clos-Auduc. Est-ce que ce besoin croissant de solidarité et de tout type s'est fait ressentir aussi sur vos territoires?
Oui, énormément. C'est-à-dire que quand on fait des allées vertes, les personnes en fait, avec qui on pouvait avoir un échange nous parlaient de leurs difficultés, mais c'était plus pour trouver du travail, des choses comme ça, ou pour pouvoir, parce qu'ils n'avaient pas, en fait, pas d'endroit pour les crèches, ou voilà, enfin voilà, pour les enfants. Et maintenant, c'est plus question alimentaire. C'est vraiment ça qui revient tout le temps, c'est-à-dire comment se nourrir. C'est, voilà.
Et du coup, sur la solidarité, j'entends dans les deux sens, du coup, dans faire solidarité aussi, il y a eu aussi des élans comme ça de comment je peux, moi, aider, participer au collectif. Il y a eu aussi des vocations participatives
qui ont
émergé aussi.
Oui, du coup, on s'est dit qu'il fallait absolument mettre en place des petits paniers solidaires de façon à ce que on puisse en distribuer on a mis ça en place déjà à Noël pour les personnes en grande difficulté et isolées et on travaille avec les bailleurs et les gardiens et lors de nos petits déjeuners, donc on a fait des petits déjeuners cet été.
Alors c'est le fameux projet que vous appelez Aller Vert, c'est aller vers les publics,
voilà.
C'est s'installer en pied d'immeuble, s'installer là où les gens vivent en fait,
voilà,
là où il y a un lieu d'activité humain.
Oui, voilà, exactement.
Et puis pas attendre dans sa structure plutôt que
non,
les gens viennent à notre rencontre, c'est aller vers.
Voilà, c'est
aller
sortir,
vers. C'est ça,
sortir
aller
des
vers.
Murs, voilà,
vous
exactement.
Vous dites comme si nous savions tout ce que
non,
c'était.
Non, c'est vrai, voilà. non, aller vers, non, c'est vrai, aller vers, c'est voilà, c'est aller vers les gens, repérer les problématiques, discuter avec eux, savoir leurs besoins. Et du coup, c'est vrai que cette année, en juillet-août, on a fait des petits déjeuners au pied d'immeuble. On a pu discuter avec les gens, offrir des croissants, des pains au chocolat, du café, du thé chaque matin.
Et j'imagine que ça, c'est un prétexte à... c'est un prétexte à l'échange, un prétexte à la discussion et, et être avec un public. Quoi.
Oui, voilà, exactement. Et puis de là, en fait, on s'est dit, lors de ces échanges, en fait, quand on repère une problématique, on peut mettre en place des petits paniers solidaires où à l'intérieur on met tout ce qui est première nécessité. Donc il y a du riz, des pâtes, du thon, du sucre, de l'huile, enfin tout ce qu'il faut, voilà.
Pas de quoi faire une salade de riz.
Voilà, exactement. Exactement. Et du coup, voilà, on distribue. Alors, on les a pas distribués directement aux personnes. On leur a donné des petits bons parce que c'était pas, c'est pas simple en fait. Il y a une certaine pudeur pour recevoir ces paniers solidaires. Et ils pouvaient venir à la maison de quartier les récupérer et du coup avoir un échange avec nous et voir leurs problématiques, leurs besoins et les aider.
Je me retourne vers vous, Christophe Cousin, coordinateur de l'association Habitat et Humanisme, un petit peu avec cette même thématique. Est-ce que ces derniers temps, on sent qu'il y a un besoin plus important d'accompagnement de public? Est-ce qu'il y a un élan de solidarité, soit pour en bénéficier, soit pour aussi l'alimenter, cette solidarité, parfois même les deux à la fois, parce qu'on peut être bénéficiaire d'une solidarité tout en participant à cette solidarité, justement. Est-ce que vous voyez des choses, des besoins peut-être plus criants, plus en...
Est-ce que les besoins ont été différents? Je ne sais pas, mais effectivement, on est dans l'humain, on est dans le rapport à l'autre, au quotidien. Et compte tenu de la période qui vient se passer, il a fallu réinterroger un peu nos pratiques et la façon de communiquer. C'est un peu... Alors, dans les pensions de famille, finalement, il y a un lien qui s'est tissé un peu plus fort. Mais déjà, dans une pension de famille, on est un peu dans une bulle fermée. Donc, finalement... une espèce de sentiment d'isolement, mais finalement c'est un isolement qui a été
propice,
puisque oui, de toute façon
c'est un isolement collectif,
voilà, et qui a été par rapport au Covid, c'était plutôt efficace en fait. Effectivement, on n'a pas eu de ces crises. Après, dans le besoin des bénévoles, alors ça c'est un petit peu plus difficile à mesurer, parce que les bénévoles qui étaient là depuis toujours, effectivement, c'est la vie associative aussi qui est importante, et la solidarité, et ne plus pouvoir aller au-devant de l'autre, réinterroger les pratiques, on a perdu quand même, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, effectivement, on a perdu des gens de vue, parce qu'ils ne pouvaient pas aller au quotidien, une fois par semaine, quand ils pouvaient aller au contact des personnes qu'on accompagne. Donc ça, effectivement, on a subi un peu, et on voyait que les gens avaient envie de faire plus, mais on était limité par cette période.
Michel, vous, c'est les tisseurs de loin, ce collectif de structures autour de la solidarité, j'ai envie de dire quasiment tout, ou au moins dans leur projet, un axe autour du collectif, de la solidarité et un regard sur l'autre.
Tout s'est arrêté, tous nos projets se sont arrêtés. On travaille surtout avec les associations, donc on ressent moins parce qu'on est moins en contact avec le public en direct, mais on le sent quand même. Par exemple, on avait en projet de faire le café de la réparation. Donc ça, c'est en plein dans la solidarité.
Alors c'est quoi le café de la réparation?
C'est des bénévoles qui aident à réparer des différents objets. Dans un premier temps, on avait prévu des petits électroménagers. C'était prévu, on avait tout mis en œuvre pour que ça démarre en début 2020. On a reporté au premier trimestre 2021 et c'est toujours pas d'actualité. Donc c'est quand même impactant et on a des demandes. On
et puis, a c'est bénévoles. Des outils de solidarité, mais aussi des outils économiques. Quand j'ai réparé mon lave-linge, quand j'ai réparé mon mixeur ou autre, c'est ça de moins que je dépense quand même. Et sur certains foyers, ça fait la différence.
Complètement, c'est le but de ce qu'on veut construire. Les bénévoles, on les a, ils sont présents à chaque fois qu'on les appelle. Ok, tel jour, on sera présent. Ça fait plusieurs fois qu'on reporte à chaque fois, et chaque fois, les bénévoles nous disent zut, c'est encore reporté pour nous. Mais bon.
C'est ça, tout un lot de bénévoles qui a envie de donner de son temps, qui a envie de participer au collectif, et puis finalement, qu'on n'est plus mis.
Et on a de la demande des particuliers. J'ai déjà eu pas mal de coups de fil. Quand est-ce que vous mettez en route cet atelier? Parce que j'ai besoin.
C'est ça, parce que ça fait un an et demi que ton mixeur est en panne. Là, Michel, il faut faire un truc.
Complètement.
Vous souhaitiez réagir, oui, Christophe?
J'ai juste ajouté par rapport aux besoins, mais aux besoins des bénéficiaires ou des familles qu'on accompagne. En fait, comme on est beaucoup allé sur le contact numérique, voilà, on s'aperçoit qu'effectivement, la fracture numérique, c'est pas du tout négligeable. Et puis là, on est dans la phase aussi maintenant, alors même dans les pensions de famille, sur la fracture, j'ai appelé ça vaccinale, enfin, je ne sais pas comment dire ça,
effectivement,
le rapport, il y a des liens entre le niveau social, le parcours que l'on a et le rapport qu'on a à cette obligation de vaccin. Et c'est particulièrement parlant dans nos pensions de famille où finalement, je me répète un peu, mais ils sont dans un environnement assez clos. Donc, le discours, c'était de dire, on craint rien, quoi. Voilà, on est hyper protégé. Et donc, il y a tout ce travail à faire. Et donc, on a vu qu'il y avait, pour se répéter, effectivement, la fracture numérique qui était là, et puis la fracture santé.
Tout à fait. Moi, il y a une question, c'est qu'on parlait des bénéficiaires, qui sont le public pour qui la vie est quand même plus compliquée s'il n'y a pas cette solidarité qui offre. Mais il y a aussi tout ce public bénévole qui participe à cette solidarité, sur lequel, quand on est bénévole et qu'on participe à la solidarité, finalement, on en bénéficie aussi. En fait, ce n'est pas si anodin que ça que d'être bénévole dans telle ou telle structure. Ça fait partie, ce n'est pas juste, comment on peut dire, tourner vers l'extérieur. On prend aussi, quand on est bénévole dans des structures, quand on participe à cette solidarité, ça nourrit aussi l'humain. J'imagine que pour les bénévoles, ça peut être compliqué aussi, des fois, d'en être privé de cette façon d'aller vers les autres. Je ne sais pas si dans vos structures vous l'avez ressenti aussi, cette espèce de manque de bénévolat. En fait, c'est évidemment, je suis bénévole, mais je ne peux plus. Ça me manque.
Si, ça s'est ressenti, ça se ressent encore, effectivement, cette envie. Souvent, dans les mouvements comme les nôtres, il y a un vrai engagement, en fait. Hein, donc, on n'a pas que des... voire très très peu de bénévoles consommateurs, parce que ça existe aussi. On peut avoir des besoins différents pour venir faire du bénévolat, mais dans le type de structure, de mouvement comme les nôtres, il y a vraiment cette idée de l'engagement. Et quand on est engagé, on a envie de s'engager, en fait.
C'est même nécessaire au bout d'un moment. Il y a un truc un peu nécessaire dans l'engagement. Pour avoir croisé beaucoup, beaucoup de bénévoles engagés dans des associations, ça fait partie de la vie. Ça fait partie d'un élément constitutif de la vie, même carrément, pour les bénévoles qui offrent du temps. Moi, je voulais revenir une petite seconde, et notamment sur les paniers solidaires, peut-être faire le lien avec vous, Nathalie, par rapport à la Croix-Rouge, sur cette aide alimentaire, sur un élément qu'a abordé Christophe. Vous voyez, je suis en train de relier tout le monde, là, hein, quasiment, sur cette question. C'est pas si simple que ça, finalement, de bénéficier de solidarité. Cette espèce tout un tas de publics, c'est partiellement... fragilisé temporairement ou sur des périodes un peu plus longues. En tout cas, venir chercher la solidarité, c'est pas forcément une démarche simple. Être bénéficiaire, en fait, d'une solidarité, pas forcément quelque chose de simple. Comment, je sais pas, vous tous autour de la table, cette question est abordée au sein de vos structures? Est-ce que c'est une vraie question de se dire, Carole parlait tout à l'heure de tickets, de le faire un peu comme chacun l'entendait. Je sais pas, est-ce qu'il y a une appréhension de cette question-là au sein de vos structures, notamment quand on est sur de l'aide au logement, de l'aide alimentaire ou de l'aide vestimentaire? Il y a une notion d'aide. Et comment on y réfléchit, comment on pose ça dans un fonctionnement de structure? Encore une jolie question que je vous pose au milieu. Carole.
On n'aborde pas tout de suite cette question, en fait, avec le public. C'est vraiment, il y a de la confiance avant. Il y a vraiment tout un cercle de confiance. Et puis, il faut aussi... faut aussi repérer, parce que c'est pas simple de dire j'ai besoin d'aide. C'est vraiment pas simple. Et puis il y a l'isolement. D'où l'importance de travailler aussi avec les bailleurs et les gardiens qui sont au plus proche des habitants aussi, comme on peut l'être. Et c'est vrai que pour pouvoir briser cet isolement, il faut pouvoir aller à l'encontre des gens. Et pour aller à l'encontre des gens, on ne peut pas le faire sans savoir à quelle porte frapper finalement. Mais une fois que la personne commence à parler avec vous, que le lien se fait, la confiance s'établit, et puis j'ai envie de dire la langue elle se délie, et là ils finissent par nous dire qu'effectivement ils sont dans le besoin, qu'ils ont besoin. Et de là on arrive à les sortir de cet isolement et les faire venir à la maison de quartier. Et tout un acheminement. Après, il y a tout un suivi et c'est important.
J'imagine, est plutôt individuel, du coup, oui. Sur ces questions-là, notamment.
Exactement, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Les personnes n'ont pas envie de savoir que son voisin sait qu'il peut bénéficier d'un panier solidaire ou voilà.
Ça, c'est cette question aussi, au bout d'un moment, c'est pas forcément quelque chose qu'on affiche de manière évidente. Et puis, il faut malgré tout pouvoir y accéder. Notamment, je vous l'évoquais tout à l'heure, les petits déjeuners en pied d'immeuble, choses comme ça sont peut-être aussi le moment d'enclencher des discussions et puis de générer un lien de confiance. Et vous l'avez abordé là à l'instant, Carole, sur cette notion de confiance. Il y a un lien de confiance qui se crée et à partir de là, on peut travailler. Nathalie Coin, sur la Croix-Rouge française, comment on procède?
Alors, nous, c'est totalement différent parce que nous n'allons pas à la rencontre du public. En fait, alors, jusqu'à avant la pandémie, c'était soit les travailleurs sociaux qui nous envoyaient les personnes qui allaient, qui avaient rendez-vous avec une assistante sociale et ils étaient dirigés par l'assistante sociale.
La phase confiance avait déjà été établie avec un travailleur social en amont.
C'est ça, exactement. Soit les gens venaient directement chez nous en disant, j'ai besoin d'aide. À savoir que souvent, quand les gens font cette démarche-là, c'est que... Enfin, c'est trop tard, je dirais, quelque part. C'est que c'est vraiment...
On est dans une situation d'urgence.
Voilà, exactement. Depuis le début de la pandémie, nous ne travaillons qu'avec les travailleurs sociaux. Donc, je vous dirais, tous les jours, j'ai 5 à 6 demandes d'aide alimentaire de différents travailleurs sociaux de tout le département. Voilà, ça peut être... ça peut être le conseil général, ça peut être le conseil départemental, ça peut être les assistantes sociales d'autres associations, ça peut être dernièrement, j'ai eu, c'était les Restos du Cœur qui me contactaient pour une aide alimentaire. Donc vous voyez, c'est vraiment, on ne va pas à la rencontre des personnes, c'est vraiment les personnes qui viennent effectivement, soit directement. Parce que leurs voisins bénéficient de nos aides alimentaires et ils ont dit va voir à la Croix-Rouge ou alors ils sont passés par un travailleur social.
C'est vrai que la Croix-Rouge, je dirais, c'est une association, une structure reconnue, très reconnue depuis de nombreuses années.
Sur Évreux, c'est énormément de gens ne savent pas qu'il y a une Croix-Rouge à Évreux et ils ne savent pas où elle est. Alors, ça va faire...
C'est en face du commissariat, toujours.
C'est ça,
la rue qui remonte en face du commissariat.
Exactement, c'est en face du commissariat de police. Mais énormément de gens ne savent pas que nous sommes... qu'il y a une Croix-Rouge à Évreux. Et ça fait pourtant plus de 8 ans qu'on essaye de travailler sur cette notion de façon à se faire reconnaître. Mais il y a encore des gens qui ne sont pas au courant qu'il y a une Croix-Rouge dans Évreux.
Pour les tisseurs de liens, pour Habitat Humanisme, comment est-ce qu'on aborde, comment est-ce qu'on imagine, comment est-ce qu'on travaille sur ces questions de repérage de public, de comment est-ce qu'on travaille avec le public sur justement cette notion de quand on est en besoin, c'est pas toujours évident de se signaler comme étant en besoin.
Nous, on l'a vu quand on a organisé une gratiféria en 2019. Pour info, une gratiféria, c'est une foire à tout gratuit. On met à disposition de tout un chacun des objets, des vêtements, des choses comme ça. Et certaines personnes avaient du mal à prendre quand on leur disait « prenez ce que vous voulez, c'est totalement gratuit ». Pour ces personnes-là, ce n'était pas naturel on ne paye pas. Je dis non, c'est gratuit, vous prenez ce que vous voulez. Et bien souvent, on voyait ces personnes-là revenir quelques heures après avec un objet en compensation. Bon, c'est tout à fait sympa, mais ce n'est pas le but. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, les personnes ont du mal à venir demander quelque chose.
C'est ça. Oui, l'exemple de la Gratiferia, c'est-à-dire qu'on propose gratuitement, voilà. Et puis chacun ne se sent pas légitime peut-être à se dire, à bénéficier.
C'est pas encore entré dans les mœurs.
Sachant que sur une Gratiferia, on demanderait aux gens de que ce soit un besoin, pas un besoin, quoi que ce soit. C'est une Gratiferia, quoi.
Tout à fait.
Il n'y a pas une notion de puis-je en bénéficier ou pas en bénéficier.
Non, c'est vous passez, vous voyez quelque chose qui vous convient, vous le prenez, on ne vous demande rien, pas votre nom ni rien du tout, et vous repartez avec sans souci.
Et malgré ça, bah, effectivement, cette notion de bénéficier gratuitement, elle n'est pas si finalement ancrée que ça.
Elle n'est pas si ancrée que ça.
Christophe, vous, comment vous abordez ces questions de lien avec les publics ?
C'est un petit peu différent parce qu'en fait, sur le logement, en tous les cas, pour ce qui nous concerne, les personnes, elles nous sont fléchées, on va dire. Donc, il y a une prescription, un travail en amont des services sociaux, des services de l'État, les CCAS, les différentes associations. Donc, on nous envoie les personnes, en fait. On fait des commissions et on voit s'ils peuvent entrer dans nos différentes formes d'accompagnement. Donc, ça, effectivement... Au départ, c'est très différent. Après, il faut adapter l'accompagnement. Je pense que le plus gros de notre mission, en fait, c'est que les personnes qu'on accompagne, elles prennent la main, en fait, et qu'elles comprennent pourquoi elles sont arrivées chez Habitat Humanisme et qu'est-ce qu'on veut faire. En fait, on veut les rendre autonomes puisqu'on fait de l'intermédiation locative. Donc, on se porte garant sur les logements. Et le but du jeu, c'est qu'elles aient le logement à leur nom ou qu'elles partent dans un autre logement. Donc, effectivement, tout le travail, c'est qu'elles comprennent ça dans le temps où elles sont accompagnées chez Habitat Humaniste, qu'elles comprennent, entre guillemets, ce qu'on veut faire d'elles, mais l'expression n'est pas très bonne, en fait.
Ouais, c'est comment on les amène à faire ce qu'elles veulent d'elles. En fait, c'est peut-être plus vrai sur parfois, on a besoin du marchepied pour pouvoir franchir une barrière, un obstacle, et puis après continuer son parcours de manière totalement ordinaire.
D'où le principe de revenir, effectivement, sur... une fois qu'on a le logement, elles sont dans le logement, notre travail, c'est de dire, OK, là, vous y êtes, mais maintenant, on vous emmène où, en fait. Voilà.
C'est ça, et en fonction des uns et des autres, on ne va pas forcément au même endroit. C'est justement ça qu'on appelle l'autonomie.
Exactement.
Juste avant de revenir sur les questions de partenariat, parce que je sens bien que chacun ne bosse pas tout seul dans son coin, et je crois que c'est peut-être même une des particularités des structures qui travaillent sur ces questions sociales et sur ces questions de solidarité. Vous ne travaillez pas seul. On va se poser les questions juste après un petit peu de comment vous travaillez justement avec quel réseau partenarial. Mais juste avant, je propose à Adrien et Vinci, un à la réalisation vidéo, l'autre à la réalisation du son, une pause musicale sur Facebook en live. Vous n'aurez pas la pause musicale parce que c'est des histoires de droit, tout ça, vous voyez, c'est toujours tout de suite un petit peu plus compliqué dès qu'on passe par les internets. Mais les heureux auditeurs de Principe Actif, eux, auront droit à la belle pause musicale. On se retrouve juste après. We'll be right back. Voilà, alors on a débattu longuement durant cette pause musicale. Alors je vais vous tenter l'accent. Joy Crooks avec Fit Don't Fail Me Now. Vous êtes en direct, en live et en public du Forum des associations à Évreux. Et puis nous sommes là vendredi, samedi, dimanche. Principe actif, également le Facebook du Bureau Information Jeunesse, du BIJE, comme on dit dans le milieu, avec les copains du service jeunesse de la ville d'Évreux et de culture et nature. Voilà, une sacrée équipe, hein, j'ai envie de vous dire. On pourrait vous tenir au moins 15 jours en non-stop et en live. Nous sommes, nous, autour d'un plateau sur lequel nous posons des questions de la solidarité. Le milieu associatif, moteur de solidarité, il n'y a pas de point d'interrogation à la fin, c'est une affirmation que nous posons et nous décortiquons un petit peu cette information que nous avons donnée avec Michel Debonner, président des Tisseurs de Liens, avec Nathalie Coin, assistante de direction à la Croix-Rouge française sur l'antenne hébroïcienne, avec Carole Blanchard, médiatrice accueil famille au centre social AL2E sur Netreville et le Clos-Auduc, et avec Christophe Cousin, coordinateur de l'association Habitat et Humanisme. Autant vous dire des spécialistes de la solidarité. Alors rassurons-nous, il y en a plein d'autres, hein, des spécialistes. Ce n'est pas les quatre associations porteuses de solidarité qui sont aujourd'hui sur le forum. C'est un choix arbitraire parce qu'il y aura d'autres échanges. Nous recevrons d'autres associations durant ce week-end. Mais c'était un bel exemple de solidarité. Justement, on parle des autres structures, on parle des autres partenaires. Vous l'avez évoqué sur le début de nos échanges. Mais la solidarité oblige également à un travail partenarial. On parlait tout à l'heure des services institutionnels pour les préconisations, les prescriptions des publics. On parle de tout un tas de partenaires, et notamment quand on parle centre social, c'est ne serait-ce que déjà sur le quartier, tout le quartier est partenaire finalement, hein, Carole ne me démentira pas. Et puis, les tisseurs de liens, c'est un collectif, donc par nature, de toute façon, il y a du partenariat. Quelle force que permet et comment vous organisez le partenariat dans vos structures? Une nouvelle question que je pose au milieu de la table. Voilà, Michel Debonner, pour les tisseurs de liens.
Pour nous, c'est dans notre ADN. Donc, quand une association a une question ou un besoin particulier, elle nous envoie sur notre messagerie sa demande particulière. Et nous, on la retransmet à tous nos contacts. On a quand même une liste de 250 contacts, donc c'est énorme. Et qui est démultiplié aussi par chaque association qui peut relayer l'information. Pour info, en général, quand une association nous envoie une demande particulière, on transmet à tout notre réseau. Et très souvent, en 48 heures, une solution est trouvée. Bon, on ne sait pas toujours, parce qu'on n'a pas toujours le retour, mais on sait pertinemment que la communication était très efficace.
Oui, c'est ça. Ça veut dire que plus on est nombreux, mieux ça marche, quoi, tout simplement. C'est souvent vrai, hein, ce bon vieil adage est souvent vrai. À travers quels outils et quelle philosophie, Carole, par exemple, je vois que vous êtes saisie du micro, prête à répondre. Comment vous bossez en partenariat, vous?
Nous, on bosse avec les partenaires tout au long de l'année. C'est juillet-août, on a organisé beaucoup de sorties avec les partenaires, beaucoup d'actions avec les partenaires, notamment l'animation de vie locale. Des sorties famille, on a fait des sorties mères avec les partenaires, donc on a fait beaucoup de partenariats avec des sorties, en dehors évidemment de tout au long de l'année.
Donc ouais, c'est une habitude de travail, la vie elle est comme ça, elle est faite avec
oui,
les partenaires,
voilà,
quoi, c'est
exactement,
ça, c'est
pas... exactement.
Je vous permets de pousser parce que pour bien connaître la structure pour laquelle vous travaillez, la L2E en l'occurrence, je sais que c'est dans l'ADN aussi, Michel parlait à l'instant de l'ADN des tisseurs de liens, mais c'est dans l'ADN aussi de la L2E. Comment la vie pourrait être conçue autrement qu'avec un tissu partenarial important?
Je voudrais rajouter que nous, tous nos projets qu'on monte, c'est avec d'autres structures, d'autres associations. On pourrait peut-être, mais ça n'a aucun intérêt de monter des projets sans les autres associations. Et on travaille avec et pour les autres associations. c'est surtout ça.
Christophe, Habitat Humanisme, vous comment voyez ce fonctionnement partenarial?
J'ai envie de commencer en disant on ne peut pas tout faire seul, de toute manière, donc obligatoirement, il va y avoir d'autres associations avec lesquelles on va avoir des liens évidents, d'autres aux besoins. Voilà, ça, tout seul dans son coin. Alors pour autant, au quotidien, on se connaît, mais on ne se côtoie pas tant que ça, parce qu'on parlait tout à l'heure d'engagement. Effectivement, on est tous, que l'on soit bénévole ou salarié, parce qu'il y a aussi ça dans les associations, on est tous très engagés et très très actifs au quotidien, un peu la tête dans le guidon. Et finalement, on sait que son voisin associatif ou l'association, elle existe à côté, mais on n'a pas forcément le temps de partager. Alors, cette idée de la transversalité, c'est un vœu pieux, ça marche. En tous les cas, quand on le sollicite, ça marche tout le temps, en fait.
C'est ça. Après, on ne peut pas non plus bosser tout le temps comme on le voudrait. Des fois, il y a la triste réalité qui rattrape. À la Croix-Rouge française, Nathalie Coin, comment on imagine le partenariat?
Alors, nous, on n'a pas vraiment de partenariat par rapport aux demandes que l'on peut avoir. C'est vraiment n'importe quelle structure va nous faire des demandes. Voilà, ça peut...
Oui, il n'y a pas une structure ou deux structures avec lesquelles vous travaillez.
Toutes les structures d'Évreux peuvent nous faire des demandes pour des personnes qui suivent. Ça peut être même, je vois, il n'y a pas très très longtemps, c'est un monsieur qui a fait appel à nous parce que, dans le cadre de sa vie personnelle, il est tombé sur une dame qui était vraiment au bout du rouleau et qui avait vraiment besoin d'une aide extérieure pour se nourrir et des choses comme ça. Et il m'a dit, en tant que citoyen, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, il a fait appel à nous pour qu'on puisse apporter de l'aide à cette dame-là. Donc, on n'a pas vraiment de partenariat à part, je vous dirais, avec... la banque alimentaire, puisque c'est chez eux que nous nous fournissons toutes les semaines au niveau de l'alimentation, la mairie d'Évreux qui nous soutient. Mais à côté de ça, n'importe quelle structure peut nous faire une demande d'aide pour une personne en particulier.
Je me permettais d'ajouter, juste avant qu'on écoute le reportage de Jean-Jean, qu'un partenaire, en fait, ce n'est pas juste un prestataire gratuit. Un partenaire, c'est quelqu'un, c'est une structure avec laquelle on échange des valeurs, on partage des valeurs, et puis avec qui il y a un travail qui serait ce qu'on peut appeler le fameux gagnant-gagnant, en tout cas, où chacun s'y retrouve. C'était juste une petite parenthèse comme ça, parce qu'on a eu l'occasion de voir des structures qui appelaient travail gratuit du partenariat.
Et puis, c'est pas gratuit, mais il faut jamais qu'on oublie qu'il y a les bénéficiaires. En fait, on fait pas ça pour nous, on fait ça pour les familles qui en ont besoin. Il peut y avoir des fois, on perd vite cette idée en fait, mais on est au quotidien. Mais toute cette énergie qu'on dépense au quotidien, c'est pour les familles qu'on accompagne.
C'est un public, des humains qui sont parfois fragilisés dans leur parcours, et c'est venir en soutien, en béquille, à un moment de la vie où c'est nécessaire. Et ça, c'est plutôt noble. Voilà. On écoute le reportage tourné par l'ami Jean-Jean sur ce forum des associations autour des questions de solidarité, justement. Je vous inviterai à rebondir, si vous le souhaitez, suite à cet échange.
Alors, je suppose que vous adhérez à une association sportive, culturelle.
Culturelle. Pour mes enfants, oui, l'EST Natation pour la piscine de Jean Boin. Et pour ma fille, sur l'amicale laïque du Clos du Cul, pour la gym des enfants.
Et qu'est-ce qui fait qu'on s'implique dans le milieu associatif, qu'on devient bénévole, qu'on devient adhérent?
Bénévole, c'est une chose, adhérent, c'en est une autre.
Oui.
Là, je suis plutôt du côté adhérent, c'est-à-dire que je m'intéresse à un sujet. Et puis, en l'occurrence, il y a deux types d'adhérents. Hein. C'est-à-dire, il y a les passifs et les actifs. Et moi, je suis plutôt du côté des actifs, j'ai envie de faire quelque chose.
Qu'est-ce qu'on vient y chercher, justement, quand on est adhérent, quand on est bénévole, quand on s'implique? On cherche quoi? Est-ce qu'on peut le définir?
Définir, j'en sais rien. Mais on vient se réunir entre personnes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes sujets d'intérêt. On sort, on voit du monde. En ce qui me concerne, ça fait une retraite active.
Qu'est-ce qu'on vient y chercher quand on adhère à une nouvelle activité et puis aussi rencontrer les rencontres, quoi.
On est à la retraite, alors forcément, ça fait voir du monde.
On se sent utile.
Déjà, de l'entraide avec les gens, de l'échange, du contact aussi, et pouvoir apporter ce que sont les gens ont besoin. Mm-hmm. C'est toujours, amélioratif pour soi, même par rapport aux autres.
C'est un peu un moteur de solidarité?
Tout à fait, exactement. C'est ça, tout à fait.
Et vous, personnellement, vous donnez un petit coup de main? Vous êtes participant ou alors vous...
Non, malheureusement non.
Vous achetez du...
Malheureusement non. Le temps un peu m'en empêche, mais un jour, pourquoi pas.
Un petit peu plus tard?
Un peu plus tard, tout à fait.
À la retraite?
À la retraite, pourquoi pas. Mais non, sûrement avant, mais avec tout ce qui est travail, c'est un peu compliqué.
Ouais. Voilà, c'était les personnes qui sont aujourd'hui sur ce forum des associations au micro de Jean-Jean. Deux, trois éléments sont ressortis, notamment autour de le bénévole actif, et puis l'adhérent actif et l'adhérent inactif. L'adhérent actif, c'est celui qu'on appelle le bénévole, finalement. Hein, c'est celui qui participe à la vie de la structure. C'est celui, comme on pourrait dire de manière peut-être un peu pompeuse, mais non, parce que c'est la réalité qui fait de la solidarité avec les autres pratiquants de ce qu'il fait. Donc il y a cette notion-là, voir du monde. Moi, je trouve ça génial quand en fait des gens disent, moi je choisis le secteur associatif pour pratiquer ou pour passer du temps, pour voir du monde. C'est-à-dire rechercher ce lien social, ce lien humain entre les personnes. Et puis des personnes très clairement qui disent, c'est apporter ce qu'on peut apporter aux autres. Des réactions peut-être sur ce qu'on vient d'écouter, hein, pas nécessairement, hein, c'est vous qui voyez, mais voilà. Il y a un constat aussi. Oui, Michel. Oui.
Je dirais qu'entre le bénévole actif et le bénévole, il y a quand même une grosse différence. Parce qu'il y a le bénévole qui est là un peu par hasard ou qui vient régulièrement. Et le bénévole actif, lui, est beaucoup plus impliqué dans le monde associatif. Donc, on pourra lui demander peut-être un peu plus au bénévole actif qu'au bénévole. Il faut savoir qu'un bénévole aussi, on peut lui demander sur une action. Il va être présent. Mais si on veut un bénévole tout au long de l'année, si on veut un bénévole
à plein temps qualifié tout au long de l'année, ça s'appelle un salarié, ça, je crois.
Complètement.
Au bout d'un moment.
Oui, tout à fait. Mais le bénévole actif, oui, il sera là bien plus souvent quand on a besoin de lui.
J'imagine, de toute façon, par la simple structure, le simple statut de vos structures, de toute façon, il y a des bénévoles très actifs dans chacune de vos structures. Michel, vous en êtes un bénévole actif vous-même. Hein.
Ça fait 50 ans que ça dure.
C'est ça. Ne serait-ce que par le statut juridique de vos structures, il y a des bénévoles très actifs. Quand on parle tout à l'heure de moteurs de solidarité, qu'ils le sont, hein, rappelons, une association, c'est un conseil d'administration émanant des adhérents, qui est représentant de l'Assemblée Générale, en tout cas des adhérents. Issus de ce conseil d'administration, ce sont des gens en responsabilité, hein, qui participent, qui organisent la vie d'association. Issus de ce conseil d'administration, qu'on appelle un bureau, duquel il y a un président, un trésorier, qui eux ont des responsabilités assez lourdes, très clairement, hein, quand on parle de présidence ou de trésorerie d'une association, ce n'est pas rien. Ça, ce sont ce qu'on appelle clairement les bénévoles très actifs, ceux qui font tourner la machine. Et puis, il y a ce que vous disiez aussi, Michel, aussi les bénévoles d'action, ceux qui viennent porter les barrières, et c'est tout aussi nécessaire sur des moments ponctuels. Et ça aussi, c'est une notion de solidarité également. Vous en avez tous, j'imagine, dans vos structures, des bénévoles actifs, plus ou moins actifs d'ailleurs, parce que l'avantage avec le bénévolat, c'est qu'on positionne son cursus d'engagement où on le souhaite. Pardon, il n'y a pas un point d'interrogation, mais c'était vous solliciter un petit peu sur ces questions aussi de bénévoles, d'engagement et de moteur de solidarité aussi au sein même de vos structures.
Après, il faut aussi voir au niveau des bénévoles, ces personnes-là ont un métier. Donc, effectivement, il y a des bénévoles que l'on va voir plus souvent parce que eux, justement, sont soit à la retraite, soit ne travaillent pas et ont plus de disponibilité que le bénévole qui travaille toute la semaine de 9h à 17h. Donc, il va être plutôt disponible pour faire des missions en fin de journée ou comme nos secouristes qui sont là essentiellement sur les week-ends. Alors, effectivement, dans la semaine, ces bénévoles-là sont moins disponibles que les autres.
Ce qui se comprend totalement. Comment ça se passe au niveau des bénévoles dans les autres structures? C'est moteur de l'associatif, en fait, très clairement. C'est la société ordinaire qui remplit un rôle social pour le cas des associations autour de la table. Comment ça se passe? Est-ce que on a du bénévole à tour de bras pour porter de la barrière, monter des dossiers de financement, pour réfléchir à des stratégies sur plusieurs années sur la vie de la structure, sur les méthodes d'intervention avec les publics? Vous voyez, enfin voilà, tout ce dont les bénévoles œuvrent dans le milieu associatif.
Il y a le mix de tout ça, effectivement. Alors, on parlait de gouvernance associative. Bon, c'est effectivement un gros morceau. Donc là, il faut donner du temps. Voilà. Il y a des engagements, il y a du juridique, il y a différents niveaux d'engagement. Et puis après, le rôle de l'association, alors après, je vais prendre ma petite casquette coordinateur, en fait, c'est d'arriver à mesurer ce que chacun, en tant que bénévole, veut faire. Et il y a des personnes qui vont être là 2 heures et qui, finalement, en 2 heures de temps, vous amènent un travail ou une activité extraordinaire. Et puis, d'autres personnes qui vont être là 20 heures par semaine, en fait, il faut faire avec tout ça, il faut organiser tout ça. C'est un peu plus compliqué dans une entreprise classique puisque ça reste une association et il n'y a pas cet effet d'organisation, de hiérarchie. Enfin, il peut y avoir, mais l'intérêt, c'est d'aller chercher le potentiel de chacun et que chacun a envie d'exprimer. En fait. Toute la force de l'économie sociale et solidaire, elle est là, en fait. Aujourd'hui, c'est officiel depuis, je sais pas, 5-10 ans, l'économie sociale et solidaire, mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça a. Et quand on réfléchit un peu à nos parcours individuels, on a tous, un moment ou un autre, fait du sport, c'était dans une association, fait de la musique. On a tous dans notre ADN, quelque part, un petit morceau de l'économie sociale et solidaire, mais c'est tellement inscrit en nous qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. Et donc, tout le but des associations, c'est aussi de rendre visible ça, ce que ça fait partie. C'est très particulier aussi sur la France, l'économie sociale et solidaire, le monde associatif, il est vraiment très, très dense. Donc,
tout à fait. Et puis, au-delà d'être juste un mot qui classifierait l'association, c'est une philosophie quand même d'aborder la question économique. Également, ce n'est pas juste un statut juridique posé comme ça, c'est une façon d'aborder la question économique, très clairement. C'est dingue, dès qu'on enlève ces notions de profit, en fait, tout va mieux.
Après, effectivement, mais les associations, elles ont besoin de faire le... Avoir de l'argent dans une association, c'est pas un gros mot, en fait.
Alors, non, mais c'est la partie économique. C'est la partie économique.
On a besoin de dons, on a besoin de financement,
mais toujours au service du collectif. Et c'est justement cette notion d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que les bénéfices, ou en tout cas le fonctionnement économique, est au service d'un collectif et pas à titre individuel, ce qui est un autre type d'économie sur lequel je ne porte aucun regard. Mais en tout cas,
on n'a jamais vu une association devenir très riche. Déjà, ça, on n'en a pas besoin. À partir du moment où on a tous les financements pour faire tourner l'association, monter les projets, les créer et éventuellement les faire perdurer, c'est notre but. On n'est pas là pour éventuellement devenir très riche. C'est pas notre but. En plus, en tant qu'association loi 1901, on ne le veut pas.
Oui, c'est ça. Les humains ne peuvent pas être riches. L'association éventuellement, mais pas les humains qui la constituent. Carole, oui.
On est riche de sentiments humains.
Tout à fait. Merci de le rappeler que cette richesse est essentielle aussi, Michel. Carole, au niveau de l'engagement bénévole, au niveau des gens avec qui ça fonctionne, cet engagement solidaire, justement, comment ça fonctionne chez vous?
Nous, on a énormément de bénévoles. C'est vrai que les gens viennent volontairement, même ne serait-ce que prendre un café quand ils ne viennent pas, même s'il n'y a pas besoin de faire une action, si on n'est pas sur une action, ils viennent quand même prendre un café. Et on a effectivement les bénévoles, on a des bénévoles qui sont très actifs, qui sont là continuellement, qu'on n'a pas besoin d'appeler, même qui arrivent et puis hop, qui vous filent un coup de main, comme vous disiez, pour porter les barrières et ranger le matériel ou sortir le matériel. Et puis on a les bénévoles aussi qu'on va plutôt appeler aussi parce que ou qui vont venir naturellement parce que on mène une action sur l'alimentation. Donc on a des bénévoles qui vont plus être porté sur l'alimentation, la couture et ainsi de suite.
J'ai une illustration assez claire on a eu l'occasion à la radio de participer à plusieurs événements organisés, portés par la L2E, notamment les à ciel ouvert ou les Netreville Summer Show, qui sont des grandes fêtes de quartier. Et en fait, tout le monde participe et tout. Et au moment où c'est le moment d'Angers, en fait, tous les gens qui ont participé se transforment en bénévoles. Il y a une espèce d'effet où quand c'est le moment d'Angers, en fait, le public se transforme en bénévole.
Oui, effectivement, chacun va ranger sa chaise. Et ils viennent naturellement. Pour
plier
une tente.
Ils ne se gênent pas pour recruter à ces moments-là, bien entendu. Non, mais c'est assez drôle quand on parle de se sentir faire partie d'un collectif, d'être en échange, en solidarité avec les autres, dans leur fête à chaque fois, quand c'est moment de ranger, d'un seul coup, on se dit ils étaient où le public avec des bénévoles ici?
C'est vrai, il y a un élan comme ça. Oui, c'est vrai.
C'est assez drôle.
Qui, naturellement, range le matériel et file un coup de main, effectivement.
Il me reste 2 minutes pour conclure cette émission qui portait autour de la solidarité. Je vais vous demander que votre réponse, il n'y aura pas ma question. Vous avez sûrement une meilleure réponse, une réponse bien meilleure que ne serait ma question. Globalement, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces questions de solidarité, ces questions de fonctionnement dans vos structures éventuellement, ou une idée plus large autour de ces questions de solidarité? Il n'y a pas de question, vous pouvez aborder la thématique de votre choix. Alors là, cette fois, je ne peux pas poser la question au milieu de la table. Forcément, c'est à vous de poser votre réponse au milieu de la table si vous avez une réponse à apporter. Ça fait maintenant bientôt 1 heure que nous échangeons et on a quand même bien brossé le tableau. Non, vous préférez quand c'est moi qui pose des questions, j'ai l'impression, c'est ça?
Moi, je finirais juste par dire qu'il ne faut pas hésiter à pousser les portes de la maison de quartier. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir dans nos murs ou à venir à notre rencontre quand on est... en aller vers, c'est-à-dire qu'on va vers les gens. On est là, on a une écoute, on peut aider et ne pas hésiter à venir nous voir.
Très bien, un petit mot de fin de tour de table. Nathalie, je vous ai emparé du micro, vous aviez quelque chose.
Je suis totalement d'accord, effectivement, il ne faut pas attendre le dernier moment avant de demander de l'aide. Il y a des associations, il y a des organismes qui sont là pour ça. À Évreux, nous sommes quand même une ville assez riche d'associations et d'organismes qui peuvent aider, que ce soit pour une aide alimentaire ou pour effectivement un logement. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre le dernier moment parce que la pente est plus dure à remonter quand on attend le dernier moment.
Très bien. Christophe, un mot de la fin?
Le mot de la fin, la solidarité. C'est un champ très vaste. Moi, j'ai envie de dire, en fait, il faut. C'est un peu inné en nous, mais ce qui n'est pas inné, c'est de le rendre visible, en fait. Voilà. On cherche à mettre ce mot solidarité, mais finalement, plus on rend visible nos actions et ce qui se passe, finalement, la vraie solidarité, c'est ça, c'est de se rendre compte que y a des choses qui existent partout.
Michel, un mot de la fin pour les tisseurs de liens.
Moi, je dirais qu'il y a un tissu associatif sur Évreux très, très riche. Le seul problème, c'est que les personnes qui en ont réellement besoin ne le connaissent pas. Et c'est peut-être notre problème d'aller trouver les bonnes personnes qui ont vraiment besoin de nous.
Très bien. Et Carole nous l'a bien exprimé à travers ce fameux aller vert qui est aujourd'hui dans l'ADN à Nitreville et au Clos-de-Duc d'L2E. Eh bien, c'est comme ça que nous conclurons ce plateau. La thématique était le milieu associatif moteur de solidarité. C'était une affirmation, il n'y avait pas de point d'interrogation à la fin, je tiens à le préciser. Nous étions avec Michel de Bonner, président du collectif Les Tisseurs de Liens. Nous étions avec Nathalie Coin, assistante de direction à la Croix-Rouge française sur l'antenne hébroïcienne. Nous étions avec Carole Blanchard, médiatrice accueillie de famille au centre social l'association L2E, et nous étions également avec Christophe Cousin, coordinateur de l'association Habitat et Humanisme. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir échangé autour de la solidarité. Ce serait un thème qu'on pourrait quasi inépuisable, hein, mais on mettra une fin pour aujourd'hui. Nous allons, pour les vidéos web, nous tourner du côté de Maxime, qui a préparé un joli plateau, qui va reprendre la main sur la demi-heure qui arrive. On se retrouve d'ici un petit instant sur les coups de 19h30 pour un deuxième plateau échange.